France Inter. Le masque et la plume. Autofiction ou conte, habitué des librairies ou nouvelle venue, l'actualité littéraire est au sommaire du masque cette semaine avec le roman d'apprentissage de Sorge Chalandon, Les Mères, oui encore, de Catherine Millet et Amélie Nothon cette fois, le premier roman d'une figure de l'électro-punk, à savoir Rebecca Warrior, et la vie d'une écrivaine à New York en plein confinement, sous la plume de l'américaine Sigrid Nunez. Pour en débattre en public depuis la scène du théâtre de l'Alliance française, sont installés Raphaël Léris, du Monde, Alice Develay, du Figaro, Arnaud Vivian, de la revue Regard et l'homme de la situation, et Patricia Martin, de France Inter. Vous avez le programme, alors bonjour et bienvenue. Voici Le Masque et des plumes. Dans le courrier de la semaine, vous réagissez aux critiques à l'encontre de La Maison vide de Laurent Mauvignier. Lorsque nous étions à l'Opéra de Nancy pour le livre sur la place, Jean-Marc Proust avait sorti un pot de margarine pour illustrer une écriture qui, selon lui, en fait des tartines. Plusieurs d'entre vous lui donnent des conseils alimentaires au passage. La margarine, non. Le beurre salé, oui. Et Fanny Jolie de Paris 15e, plus soi. C'est-à-dire que pour elle aussi, je cite, « Mauvignier en fait des tartines » et cette auditrice s'étonne que la plupart d'entre vous aient été dithyrambiques. Cela dit, vous êtes beaucoup plus nombreux à rejoindre la dithyrambe. Frédéric Pavlik d'Audintiche compare l'élégance stylistique de Laurent Mauvignier à Marcel Proust et Claude Simon. Sur Instagram, le compte de la lectrice avisée m'écrit « La maîtrise absolue de la narration dans La Maison vide rend Laurent Mauvignier intouchable ». Pablo Ahumada, quant à lui, fut, je cite, « sidéré par le ton méprisant de certains à l'encontre de La nuit au cœur de Natacha Apana, qui fait le récit de plusieurs féminicides ». Cet auditeur pointe le fait que des critiques venaient surtout des hommes de la tribune, et Stéphane lui répond, depuis le Calvados, en posant la question suivante. « Si l'on est un homme, a-t-on le droit de faire une critique d'un livre dont le sujet est l'un des drames de notre société ?» Les féminicides. Drôle d'époque que celle que nous vivons, où il existe des sujets totems, intouchables, comme si l'idée même d'une critique de la forme devenait intolérable. Enfin, Thierry Gilibeuf de Puteau pointe une erreur énoncée. Les Thibauts n'est pas un roman de Romain Rolland, mais de Roger Martin-Dugard.
C'est toi, Arnaud.
En tout cas, cet auditeur nous propose d'évoquer La mort à Venise de Louis-Ferdinand Céline ou Mort à crédit de Thomas Mann.
Pas drôle.
Et dire que malgré tout, je continuerai à vous écouter la semaine prochaine, sans rancune, conclut-il. On commence ce masque livre avec Simone Aimonet, nouveau récit autobiographique de Catherine Millet. Après Commencement, Une enfance de rêve ou encore La vie sexuelle de Catherine M, paru au début des années 2000, Simone Aimonet est la mère de Catherine Millet. Aimonet est son nom de jeune fille qu'elle reprend après avoir demandé le divorce au début des années 70. Le 24 mars 1982, Simone Aimonet se suicide par défenestration. Sa fille Catherine compose son portrait par fragments, à partir de photos, de cartes postales, contenues dans des boîtes qu'elle se décide à ouvrir. Le texte ne suit pas une chronologie, mais avance selon les images et les souvenirs retrouvés. À ces images et souvenirs se mêle la vie professionnelle de Catherine Millet dans le monde de l'art contemporain, entre direction du magazine Art Press, rencontres avec des artistes, organisation d'expositions. Dans une parenthèse au début du livre, Catherine Millet précise « Sortie de l'enfance, je n'ai jamais employé l'appellatif « maman ». Quand je lui téléphonais, je ne disais pas « allô, maman », je disais « c'est moi ». Et c'est à toi, Patricia.
Mais moi, j'ai énormément aimé ce livre. Et d'ailleurs, c'est Simone Aimonet aime le melon de Melun. C'est ce qui se disait avec le mari de Catherine Millet. Parce que c'est pas fortuit, d'ailleurs, hein, qu'elle parle comme ça de ce nom de famille. C'est le nom de jeune fille de sa mère, son nom de naissance, qui lui a donc été donné. Et puis, elle a choisi, à un moment donné, donc plus tard, quand elle a divorcé, de le reprendre. Ce qui fait que mère et fille ne portaient pas le même nom. Enfin, y a
Catherine Millet insiste sur ce hiatus.
Exactement. Et puis, une mère mère qui s'est suicidée, de quelqu'un qui s'est suicidé, avant même de dire il ou elle est morte, on dit il s'est suicidé ou elle s'est suicidée. Elle le souligne aussi et c'est très fort. Cette femme, du fait de son suicide, mais pas seulement, a été une énigme plus qu'une mère. Alors c'est très intéressant parce que elle avance comme ça un peu à tâtons. Il y a des souvenirs qui sont vraiment vrais. Il y en a qui sont un peu inventés. Parfois, ils sont totalement recréés, comme quand il y a une scène où elle s'imagine être à la place de son père. Moi, j'ai aimé cette façon de raconter. Alors, ça n'a rien d'original en soi, sauf que chacun le raconte à sa manière, c'est-à-dire de façon singulière. Ces boîtes qu'on ouvre, ces photos qu'on y trouve, des cartes postales, des lettres, des bijoux, des sacs à main. Et c'est prodigieux de voir comment votre mère, à partir du moment où elle est morte, devient une femme. C'est-à-dire qu'elle sort de son rôle assigné de femme.
Et pour le cas présent, une femme qu'elle n'imaginait pas aussi belle ni aussi heureuse à certains moments.
Exactement. Et c'est pour elle aussi le commencement d'autre chose. Elle a cette phrase que j'ai trouvée magnifique. « Maintenant qu'ils sont tous morts, je n'ai plus à m'inquiéter. »
Arnaud.
Oui, alors dans ce cimetière qui est la rentrée littéraire, c'est un autre tombeau de mère. Et il y en aura encore dans l'émission tout à l'heure.
À la fin.
Voilà, on terminera en beauté. Donc celui-là, on voit bien, parce que donc si on fait cette analogie entre le livre et la pierre tombale, on voit bien que l'objectif de Catherine Millet est d'abord de redonner son nom de jeune fille, comme tu l'as dit, Patricia, à sa mère. Alors, sa mère s'est suicidée il y a 40 ans, je crois. Donc évidemment, les souvenirs ne sont plus là, il reste des bribes, des photos qu'on regarde à la loupe, que Catherine Millet regarde à la loupe. Et évidemment, ce travail de deuil est plus long parce qu'il y a eu suicide. C'est ça le point fort.
Et un de ses amis lui dit « Défends-toi, Catherine.
Oui.
Défends-toi. »
Et il y a deux moments, moi, que je trouve très beaux. C'est quand elle raconte la première fois, et ça, c'est quelque chose, à mon avis, voilà, quand on a perdu un proche, c'est la première fois où on dit à quelqu'un « Ma mère est morte ». Et elle raconte ça très bien. Mais la deuxième fois, qui est encore plus difficile, c'est quand elle dit « Ma mère s'est suicidée à quelqu'un d'autre ». Et vraiment, tout le livre est là. Après, moi, je suis un fidèle lecteur de Catherine Millet depuis La vie sexuelle de Catherine M. Alors évidemment, elle a raconté au moins 20 fois dans ses livres comment elle a fondé Harpress, cette espèce d'amour magique qu'elle a avec Jacques Henrich, ce grand couple de critiques, parce que ce sont des critiques, là, pour le coup, qu'elle forme avec Jacques Henrich, qui est un peu l'équivalent du couple de Solers et Julia Kristeva. Donc tout ça, moi, je l'ai déjà lu, hein, la fondation d'Harpress, etc.
Donc la fabrique, là où ils habitent, c'est
une oui, sorte de phalanstère. Oui, elle a écrit un livre sur la fabrique.
Mais tu as aimé ou pas tu as aimé
oui,
ou pas
oui, oui. Bah, écoute, le problème, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut dire « je n'ai pas aimé ce tombeau ». Ça devient absurde, quoi, finalement. Je l'ai moins aimé que le prochain dont on va parler.
Raphaël, si on parle de l'écriture...
Ah, moi, c'est la netteté des phrases de Catherine Millet que je trouve extraordinaire. Enfin, elle a une espèce de précision et d'absence de complaisance qui rend toutes les scènes inoubliables. Enfin, notamment, par exemple, quand elle cherche à restituer la dernière fois où elle a vu sa mère, elle ne sait plus si c'est le 21 ou le 22 mars. Bon, ça restera dans l'ombre. Mais elle retrouve cette scène et cette dernière phrase où sa mère lui dit « je vais me tuer » et elle écrit « j'ai vu ses yeux, mais j'étais lasse ». Elle a une manière de poser les choses comme ça, avec une franchise, une délicatesse et une intelligence de la phrase, de la situation, de restituer les lumières. Je trouve ça extraordinaire.
Et une absence totale de pathos.
Ah, et une absence de pathos qui s'oppose à un certain nombre de livres dont on sera question plus tard, enfin, notamment. Non, ah oui, à un moment donné, elle dit qu'entre ses parents, elle avait été la petite fille qui voulait recoller les morceaux. Et là, elle recolle les morceaux, les bribes de ce qu'a été sa mère, qui a été donc cette femme qui était devenue malade de la vie, dit-elle, qui avait perdu son fils. Et donc, c'est en partie la mort de son fils qui l'a menée à ce désespoir, mais sans doute pas que. Et elle recolle aussi les images de la jeune fille qu'elle trouve dans la boîte à chaussures, les images aussi de gaieté de sa mère qu'elle a connue, y compris ça ouvre par une scène à la fabrique, donc cette maison, ce phalanstère réinventé, où une fois, voilà, sa mère entre de cet endroit-là, où elle n'a pas la place dans la tête de sa fille, en tout cas, et ce surgissement-là crée aussi la vie dans le texte, il me semble.
Comme tu l'as dit, Arnaud, Catherine Millet est critique, il y a des moments où cette mère entre dans le tableau, et un autre moment, évidemment, où elle en sort. Alice ?
Je suis très touchée par tout ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec vous trois. Moi, j'étais très émue par ce livre qui, par certains côtés, m'a rappelé Une femme d'Annie Ernaux et l'année de la pensée magique de Joanne Didion. Alors, dès le début du livre, on l'a dit, hein, Catherine Millet, elle ne fait aucun secret sur le fait que sa mère va se suicider. Et on sent tout de suite une tension sous sa plume entre l'envie de parler de sa mère et la mélancolie de ne la sentir exister que par des mots. Et moi, j'ai été très touchée justement par ce système qu'elle a mis en place, des bois, des cartons, des photos qu'elle va retrouver. Et elle va la revoir quand elle est toute belle, quand elle est avec son mari, ils forment un couple à la Fitzgerald. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment nos parents avant qu'ils nous ont eus, donc on se demande qui c'est. Et les photos se mettent à bouger, et puis le présent revient, et d'un seul coup, sa mère devient vieille, elle est malade, son père aussi est malade. Et là, il y a des scènes, la scène que tu racontes justement, où elle est sûrement, je ne sais plus trop, fatiguée, ça fait des mois, des jours que ça dure. Et pour sortir de chez la mère de Catherine Millet, il faut qu'elle ferme la cage de l'ascenseur. Déjà, le mot cage, c'est quelque chose. Elle pousse la grille, et sa mère lui dit « je vais me tuer », et c'est la dernière scène, et c'est absolument tragique. Et donc, c'est bouleversant. On sait qu'on est toujours l'enfant de nos parents. Catherine Millet, là, elle devient orpheline et elle fait l'expérience de ce qu'elle appelle l'incommensurable solitude du sang. C'est déchirant, mais il y a de la lumière quand même dans son malheur. Et moi, à la fin de ce livre, j'avais envie de me dire que c'était un véritable roman d'amour et j'avais envie de dire « je t'aime aux gens que j'aime ». Donc c'est un livre très beau et ça m'émeut moi-même d'y repenser.
Si c'est pas une raison pour te pendre au cou d'Arnaud Vivian. Hein,
pas tout de suite,
attends un peu.
Un petit
même.
Peu.
Quand on parlera du livre de Méline Auton, je pense. Simone et Monet de Catherine Millet est publié chez Flammarion. On continue avec le livre de Kels de Sorge Chalandon. 2 ans après le succès de L'Enragé, une fiction inspirée de faits réels, Sorge Chalandon revient à une veine autobiographique avec un roman d'apprentissage. Nous sommes en 1970. Georges a 17 ans. Il vit à Lyon avec ses parents et décide de quitter la maison pour fuir un père violent, antisémite et raciste. En 70, la jeunesse rêve de quoi, d'Ibiza et même de Katmandou. Mais Georges atteint finalement Paris, il rêvait de route et il se retrouve à la rue. Après une année de misère entre le LSD et la violence, de jeunes militants maoïstes de la gauche prolétarienne lui offrent leur camaraderie, un toit et une cause. S'ensuit alors une vie de militant dans une France où l'extrême droite progresse et où les crimes racistes se multiplient pendant l'été 73. Recourir à la violence, mais jusqu'où ? La question divise la gauche prolétarienne et Georges Kels passe de compagnon de route à compagnon de doute. Et il reprend pied et espoir en devenant dessinateur de presse. Arnaud.
Oui, alors je pense que Sorge Chalandon est un de nos meilleurs écrivains populistes. Populiste, c'est un adjectif que la politique a traîné dans la boue, mais qui a gardé tout son éclat, à mon avis, en littérature. L'année dernière, Sorge Chalandon a eu, pour un autre livre, L'Enragé, le prix Eugène Dabi du roman populiste, qui est un vieux prix, très, très honorable et très estimable. Ça veut dire quoi, un roman populiste? C'est un roman qui prend la cause du peuple. C'est ce que va faire Sorge Chalandon, c'est vendre ce journal maoïste qui est la cause du peuple. Alors, des livres sur mai 68, il y en a eu plein. Ce n'est pas un livre de repenti, contrairement à d'autres qui en ont écrit. Je pense notamment au frère Rollin, Olivier Rollin, qui dirigeait la branche armée de la gauche prolétarienne, dont il est question dans ce livre, parce qu'il y a cet événement très important qui est la mort de Pierre Auvernet, qui a été tué par un vigile de chez Renault, avec un enterrement que énormément d'écrivains ont déjà raconté. Moi, j'ai déjà lu sous des plumes d'écrivains. Jean-Paul Sartre qui était là, mais c'est pas lui qui a raconté, mais je pense à d'autres écrivains qui étaient là, qui fait la scène où il décrit l'enterrement de Pierre Auvernet. Je la trouve magnifique. D'abord parce que Sorge Chalandon, dont je suis aussi un lecteur fidèle, donc il y a des choses que je vois revenir. Son expérience dans la rue, il l'a déjà raconté. Moi, je pense que les 100 premières pages, je les avais déjà lues dans ses autres livres, parce qu'il a déjà parlé de son père, déjà parlé de cette expérience de la rue. Mais la période maoïste est très belle. Et très belle, pourquoi ? Parce qu'on voit quelque chose d'autre qu'une organisation de gauchistes de fous furieux. On voit une praxis, au sens marxiste du terme. C'est-à-dire qu'on le sort de la rue, les Mao le sortent de la rue, hein, lui donnent une chambre de bonne, lui donnent un boulot. Mais en échange, il doit faire quelque chose. Et là, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il se rend dans une famille d'immigrés qui l'aide à vivre, à scolariser, etc. On voit qu'il y a un échange pratique, il y a une praxis, voilà, au sens, encore une fois, je le redis, au sens marxiste, et qui fait toute la beauté de ce livre. C'est peut-être, Sorge Chalandon, c'est peut-être le dernier des Mahoïcans, en fait, là. Hein, parce qu'il y croit encore, parce qu'en fait, il en ressent encore tous les bienfaits du maoïsme en lui. Voilà, c'est un beau livre.
Raphaël.
Je suis moins enthousiaste que toi. La part populiste du roman populiste, vraiment de cette tradition-là, m'a évidemment sauté aux yeux. Sauf que voilà, il s'agit donc dans le roman populiste d'épouser la cause du peuple. Sauf que là, il le dit à plusieurs reprises, le peuple, c'est lui. Je comprends très bien que ce garçon de 17 ans à la rue, qui a froid, qui a faim, c'est des pages saisissantes. Mais ça n'échappe pas à la complaisance, me semble-t-il. Il y a une manière d'être ému par sa propre émotion qui, moi, met la mienne en lisière, me retient d'être ému d'autant qu'il y a des facilités d'écriture, le côté compagnon de doute, compagnon de route, bon, ou j'ai croqué le fruit défendu, enfin des choses qu'on a rarement vues chez Georges Salon, qui est vraiment un très bon écrivain. Après, je trouve ça extrêmement intéressant sur les Mao, forcément, parce que alors il dit qu'il est militaro-débile, qu'il fait partie de la branche militaro-débile, donc effectivement c'est pas les intellectuels.
Donne l'actualité de ce livre, c'est que tout ça se passe au début des années 70, donc il y a 50 ans très exactement, et en fait la violence politique dont on voit comment elle règne dans le monde entier en ce moment, c'est les opérations coup de poing avec l'extrême droite, c'est ces bagarres là, et on voit que ça rigole pas, hein. Cette violence politique, elle était déjà là, c'est ça qu'il raconte très bien.
Alice.
Moi, j'ai envie de revenir sur tes termes complaisance et kitsch. Je dirais plutôt qu'il y a de la grandiloquence, de larmoyance peut-être dans ce livre. Mais en même temps, il a 17 ans, qu'il ne l'est pas. À 17 ans, on est naïf, on est un
peu. Enfin, là, il n'a pas 17 ans.
Oui, mais il se remet dans la peau d'un personnage qui, justement, est aussi très sensible.
Il a la grandiloquence d'un homme de 75 ans. Il n'a pas la grandiloquence d'un garçon de 17.
Ah oui, mais là, dans le livre, il a 17 ans. Il faut bien qu'il se mette un petit peu dans cette pensée. Donc, je lui pardonne. Parce que franchement, moi, je trouve que, en l'occurrence, comme il a fait des excellents livres, moi, je suis épatée, pour ne pas dire admirative à chaque fois, par la capacité qu'il a à toujours se renouveler en se creusant sa propre histoire. Donc, il a déjà parlé à maintes reprises de l'autre, donc c'est son père dans le livre. Il l'a fait depuis son premier roman, Le Petit Bonzi, en passant par Profession du Père, Enfant de salaud.
Oui, mais tu disais qu'il se renouvelait.
Oui, mais là, il se renouvelle justement sur ce passé, sur cet âge où il est à la rue, il crève la faim, il nous dit très bien justement...
L'épisode Mao, il n'avait jamais raconté.
Justement, c'est ça, mais il y arrive. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de pages au début pour y arriver.
C'est pour les lecteurs qui ne l'ont jamais lu.
Et voilà. Mais c'est pas mal, parce qu'en même temps, on peut aussi lire un livre indépendamment d'une œuvre. Parfois, on découvre un auteur, et là, il le fait très bien. Et moi, je suis marquée justement par cette faculté qu'il a à pouvoir raconter un bad trip qu'il fait. On est complètement dans un truc de dingue à la Jérôme Bosch quand il prend une espèce de pastille de LSD ou un truc dans le genre.
Ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est complètement fou. C'est complètement dingue.
Ça donne pas envie d'en prendre. Hein.
Voilà, exactement. La drogue est dangereuse pour la chanter.
On en aurait bien besoin des fois.
Oui, mais alors je veux que tu restes à côté de moi, parce que la descente est drôlement dure.
Bien sûr, je resterai à côté de toi.
Tu me tiendras la main.
Alors Patricia, sans LSD, ça donne quoi?
Sans LSD,
concernant le livre de Kels de Chalandon.
Moi, ça m'est égal qu'il se répète, parce qu'en fait, c'est quand même vachement plaisant. Quoi. Il y a tout ce parcours initiatique, même s'il parle de son père, de sa mère, dont il a effectivement déjà parlé. C'est aussi toute une époque qu'il raconte, bien sûr, Yamao, mais il y a aussi l'évocation de... Bon, alors, la cause du peuple, il y a aussi le Parisien libéré, toute sa vie à la rue... avec ses bancs, ses rues, ce pont neuf où il y a déjà des gens qui sont dans des tentes, c'est des SDF, le Parisien libéré qu'il pique à chaque fois sur les bancs, et quand il est face à un éventuel employeur, et finalement il ne sera pas, on ne dit pas pourquoi, mais finalement il n'ira pas travailler là, mais où il a honte d'être ce qu'il est extérieurement, parce qu'il se dit que la pauvreté, ça se voit sur lui. Et moi je trouve que c'est formidable la façon dont il le raconte.
Oui, mais c'est un véritable anti-héros, il nous raconte ça. Oui.
Raphaël ?
Alors, juste, j'ai été interrompue par Arnaud, c'est pourtant pas son genre. j'ai parlé du fait de se placer du côté des militaro-débiles. Et ça lui permet de parler de ce qu'on peut considérer comme les déviances du maoïsme, l'affaire de Bruyère en Artois, donc où un notaire a été accusé...
À tort,
notamment par la cause du peuple. Puis, il est question de Septembre Noir, donc, où les athlètes israéliens ont été enlevés et tués...
Par des terroristes, qui a déchiré la
GP. Et le fait de se placer en militaro...
GP étant la gauche prolétarienne.
Et donc le fait de se placer en militaro-débile lui permet de ne pas être dans les têtes pensantes et de lui dire « j'ai des doutes », mais sans se mouiller tellement non plus.
Il faut bien voir quand même, les gens qui dirigeaient la GP, c'était Benny Lévy et Robert Linhart. D'abord Robert Linhart et ensuite Benny Lévy. Ce sont deux des plus grands intellectuels de ce temps. Moi, ce que j'aime justement, c'est le point de vue de Sor Chalandon et celui d'un journaliste qui va devenir. C'est déjà un journaliste en fait en germe. C'est pour ça qu'il aime lire les journaux déjà tout de suite. Et c'est ce point de vue de journaliste-là, qui n'est pas un intellectuel, que je trouve saisissant et beau.
Le livre de Kells de Sorge Chalandon est édité par Grasset. On va parler maintenant des Vulnérables de l'autrice américaine Sigrid Nunez. Depuis janvier, ses deux derniers romans ont été adaptés au cinéma, notamment par Pedro Almodovar, sous le titre La chambre d'à côté. Et dans Les Vulnérables, on retrouve une narratrice écrivaine qui vit à New York, comme Sigrid Nunez. Nous sommes en 2020, donc en plein confinement, et la narratrice va s'installer dans l'appartement très chic d'une amie pour faire du bird sitting. Ça veut dire qu'elle va garder le perroquet de cette amie. Arrive un jeune homme qui a vécu dans cet appartement avant elle et qui décide là d'y revenir. Une cohabitation commence entre eux, donc entre des personnages que rien ne devait réunir a priori, la narratrice, femme âgée et autrice, un jeune homme très beau, épaumé, et un perroquet qui vit dans une chambre pour lui tout seul.
Qui est infernal, le perroquet, quand même.
Eureka, il s'appelle. Le texte avance par digression, collage de pensées, et surtout réflexion sur l'écriture, des réflexions nourries par les livres et les conseils de nombreux auteurs et autrices chers à Sigrid Nunez, Virginia Woolf, Marcel Proust, Georges Perec ou encore Charles Dickens. Alice.
Alors moi, je suis sortie un petit peu assez dubitative de ce livre, non pas tant parce que je ne l'ai pas aimé, c'est même le contraire, je l'ai trouvé brillant, et puis il est très bien traduit par ailleurs, mais parce qu'il m'a provoqué plein de questions, et d'abord, de quoi ça parle? Parce qu'au début du livre, Sigrid Nunez, elle écrit « Ce qui compte, c'est l'expérience de lecture, les sentiments que l'histoire suscite, et les questions qui viennent à l'esprit en le lisant ». Alors sur ce coup-là, c'est très réussi.
Et toi, la question qui t'est venue à l'esprit, c'est de quoi ça parle?
Mais de quoi ça parle? Parce qu'en fait, c'est une déambulation littéraire, une déambulation dans la pensée, l'esprit de l'auteur, et c'est très bien fait. Elle pose des vraies questions sur l'amitié, l'amour, l'altérité. Ça marche très bien. Il y a un petit peu de côté bavard, mais bon, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien, notamment la scène où, donc justement, on est en pleine pandémie, elle est confinée dans cet appartement avec ce perroquet, et puis il y a cet ami qui arrive. C'est un intrus pour lui, c'est un parasite, mais j'ai trouvé assez bien vu de faire cohabiter ces deux sauvages, ces deux esprits sauvages, qui vont arriver à s'amadouer grâce à un animal sauvage. Et on va réussir à comprendre pourquoi, justement, le jeune homme est dans une espèce de crise existentielle. Donc, c'est un beau livre sur... ça délivre de belles leçons sur l'altérité, sur l'autre, mais aussi sur l'écriture, parce qu'il y a de très beaux passages sur ce que c'est la création littéraire, les personnages, le syndrome de la feuille blanche. Elle cite tout plein d'auteurs, donc il y a Joan Didion, Beckett, Woolf, Tchekhov, Kerouac.
Oui, ils sont très nombreux.
Mais oui, et puis ce qui
est du beau monde.
Ce livre aurait duré encore 100 pages de plus, ça aurait été parfait, et à la fin j'avais l'impression de m'en être fait une amie, donc lisez-la.
Tu t'es fait une amie, toi, Arnaud ?
Non, pas du tout. Donc cette dame dont j'ai découvert sur Wikipédia, donc effectivement, elle est assez âgée, donc ça doit être d'elle dont elle parle. Donc cette dame a, comme tu l'as très bien dit, Alice, le syndrome de la page blanche. Alors les écrivains qui ont raconté le syndrome de la page blanche, il y en a eu plein déjà, il y en aura encore plein, j'imagine. Mais alors ça a toujours donné de très mauvais livres. Voilà, parce que il y a rien à raconter.
Donc pour toi, là, celui-ci en fait partie.
Donc que fait cette dame? Elle s'appuie sur des citations. Dès la première phrase, c'est une citation de Virginie.
Oui, mais c'est marrant. Alors, tu sors du contexte. C'est marrant ce qu'elle dit après.
Qu'est-ce qui est marrant?
Quand elle parle de la première phrase du livre Les Vagues de Virginia Woolf, oui, qui écrit C'était un printemps indécis. Et oui, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'il faut surtout jamais commencer un roman en parlant du temps qui fait?
Et tu trouves ça drôle, ça?
Oui, moi, ça m'a fait sourire.
D'accord, ok. Non, mais après, c'est l'humour, c'est continent, hein. On ne se rend pas compte. Hein. Bon, et donc, elle n'a rien à dire, d'où la figure du perroquet, évidemment. C'est-à-dire qu'elle répète. Tout le monde fait une histoire de ce perroquet, comme si c'était très important. Ça fait 10 pages.
Bah, le perroquet qui miaule, hein, parce qu'il a appris à miauler grâce à un chat, je trouve ça plutôt rigolo.
Oui, enfin, tu vas sur YouTube.
Ça ne fait pas rire.
Tu vas sur YouTube, tu trouves ça tout de suite, quoi. Perroquet qui miaule, tu vas. T'as 1 million de vidéos qui tombent immédiatement. Bah, non, tout ça n'a aucun sens. Ce livre n'existe pas. La seule chose qui est vraiment bien dans le titre, c'est Les Vulnérables.
Patricia.
Quand ça parle de quoi, ce livre, au fond, elle parle, bien sûr, elle parle d'elle. Elle
Je note quand même que vous êtes trois à vous poser la question.
Non, mais elle parle d'elle, elle parle de ses souvenirs, mais sans nostalgie. Et au contraire, comme elle se plaint pas du tout.
Peut-être que ça aurait été mieux avec un peu de nostalgie, finalement.
Non, hein, pas du tout. Moi, je trouve que c'est absolument délicieux. C'est un livre réconfortant.
Voilà.
C'est quelqu'un, d'abord, quelqu'un qui admire Jane Goodall ne peut pas être fondamentalement mauvais. Elle a une espèce de liberté que lui donne peut-être l'âge. Hein, ouais.
Vous en parlez un peu comme un livre de développement personnel parfois.
Non, hein, c'est un livre d'amitié, de chaleur. Elle parle bien des hommes, elle parle bien de l'amour, elle parle bien de ses copines, l'amitié entre filles. Il y a des scènes qui sont super sympas. Ce jeune homme et les deux qui se retrouvent à la cuisine, et alors ils mangent pas la même chose, mais ça donne lieu à des scènes, mais qui sont marrantes, qui peuvent nous arriver. Bien sûr, ça peut nous arriver. Ça nous arrive à tout à chacun, ce genre de truc. Mais
il n'y a plus qu'une phrase qui manque, c'est que du bonheur.
Moi, je l'ai lu avec infiniment de plaisir. J'étais bien dans ce livre. Voilà. Je ne dis pas que c'est le chef-d'œuvre du siècle. Je dis que j'étais bien.
Franchement, quand même.
Comment t'es-tu sentie, toi, Raphaël, de ce nouveau roman de cette grande autrice, Sigrid Nunes?
Très grande autrice, qui est vraiment, moi, une de mes joies absolues de lecture depuis une dizaine d'années.
Et qu'en est-il pour celui-ci?
Et celui-ci, alors, de quoi il parle? Il parle aussi de ce que c'est que de vieillir, de se découvrir vieux, de se découvrir vulnérable. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une fiction pensante. Voilà, on la secoue, il y a des phrases qui tombent, il y a des idées. Alors, effectivement, l'intrigue est assez ténue, ça, je le reconnais très volontiers, mais je m'en fous complètement. Il y a une souplesse, une vitalité dans cette souplesse, dans le fait de passer d'une idée à l'autre, de retourner à son histoire, de partir dans une autre lecture, qui me plaît beaucoup. Alors, nonobstant, de la trilogie, parce que c'est une sorte de trilogie qui a commencé avec L'Ami, qui a paru en 2019, puis qui a été poursuivie par Quel est donc ton tourment, et qui se termine par celle-ci. Voilà, ça n'est pas le meilleur livre de cette trilogie, mais les deux premiers sont extraordinaires. Et en fait, si vous êtes déjà lecteur de Sigrid Nunes, c'est reprendre langue avec cette intelligence à l'œuvre dans chaque page. Et si vous ne l'êtes pas, bah, commencez par les deux premiers avant d'aller voir ce qu'il en est.
Et on peut attendre le prochain, parce qu'elle dit qu'elle aimerait avoir le courage d'écrire une histoire d'amour à l'ancienne. Mais vas-y,
tu as hâte.
Oui, on le lira, celui-là, tiens.
Les Vulnérables de Sigrid Nunes, apparu chez Stock dans une traduction de Mathilde Bach. On passe à Toutes les vies, premier roman d'une musicienne, figure de la scène électropunk, Rebecca Warrior, tel est son nom de scène. Avec ce premier texte de Rebecca Warrior, on est à nouveau dans le registre de l'autofiction. La narratrice aime une femme d'une trentaine d'années, atteinte d'un cancer du sein très agressif. S'engage une lutte, à deux, depuis le diagnostic jusqu'aux soins palliatifs, entre moments d'euphorie liés à l'espoir d'une rémission et douleur avec la rechute et les ratés médicaux. La narratrice passe d'amante à aidante à veuve, à l'âge de 39 ans, et elle se lance dans une quête spirituelle qui ira jusqu'à une conversion au bouddhisme. Le texte en cite beaucoup d'autres, lui aussi, alors ça va de Thomas Mann à Hervé Guibert, ou au dernier roman de Brigitte Giraud, Vivre vite. Il y a aussi des listes, des poèmes, des extraits de journaux intimes, sans filtre, où la narratrice écrit « Le cancer a rendu Pauline méconnaissable, je n'ai plus de désir pour elle. » Alors elle n'est ni sainte, ni héroïne, mais je cite « mi-folle, mi-sage, mi-junkie, mi-saine. » Arnaud.
J'ai bien aimé, déjà, en matière de plaisanterie, on pourrait résumer le livre ainsi, c'est l'histoire d'une lesbienne qui se convertit au bouddhisme et qui donc dit homme toute la sainte journée. Quoi. Hein? Mais là, foin de lacanisme...
tu vois, tu me fais encore rire après tout ce temps.
C'est gentil. c'est un livre dont j'ai bien aimé la forme, ce qui est assez rare, parce que ça mêle différentes choses. Donc il y a les citations qui sont très bien choisies, c'est très chic, hein, Édouard Levé, les mots de Jean-Paul Sartre, je ne pensais même pas qu'il y ait que des gens. Voilà, vraiment de voilà des
très. Herman S.
Donc en plus les citations sont entières, voilà, elles sont pas tronçonnées, parce qu'il y a un rapport, parce qu'elle a tenu son journal et puis elle revient de manière rétrospective sur ce qu'elle écrivait. C'est assez habile, c'est pas uniquement un journal intime. Alors évidemment, faut bien voir que tout ça se passe dans des milieux où on va en vacances à Ibiza dans des très belles maisons. On va prendre de la drogue de la liane, celle que adore aussi Amélie Nothomb en Amazonie. On écrit ça à la Villa Médicis. Il y a quand même un côté archi-punk mondain, comme disait l'autre. Donc, mais cela dit, voilà, il y a une énergie, évidemment, hein, elle est musicienne, ça se sent, elle a le sens du rythme, y compris dans son écriture. J'ai adoré la scène où elle se prend pour Keith Richards et elle saccage sa chambre d'hôtel, elle est en tournée. C'est une scène assez magnifique. Très bien raconté. Et évidemment, bon, il y a cette histoire d'amour. Bon, bah, là, si vous voulez, c'est l'écume des jours, hein, par ailleurs. Hein, mais c'est l'écume des jours version DJ Punkette.
Raphaël, Concernant le sens du rythme, par exemple, et les phrases très courtes, comme elle écrit des chansons, d'ailleurs, de Rebecca Warrior.
Oui, alors bon, moi, d'un point de vue musical, je me suis arrêtée à Mariah Carey, donc je ne vais pas me prononcer sur ces soucis.
Effectivement, ça ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie.
Oui, elle a une manière de mêler l'énergie et l'élégie qui est assez épatante, et notamment dans la première partie. En fait, je suis beaucoup plus sensible à la première partie, qui est celle qui va vers, enfin, qui est l'accompagnement vers la mort de Pauline, qu'à la deuxième, où je pense que j'ai pas d'âme et vraiment la recherche de spiritualité avec les drogues. Ça ne me parle pas du tout. Alors, la première partie, elle répond à une question il me semble être l'une des plus fortes que la littérature peut poser, qui est comment supporter l'insupportable, comment on se débrouille tous les jours avec le fait que il faut vivre tout en étant en train d'accompagner la femme de sa vie qui a 30 ans, 5 ans, vers la mort. Et ça, elle le raconte dans cette espèce de texte qui est énervé mais qui n'est jamais plombé, jamais plombant. Cette alternance entre le présent et l'imparfait est très efficace aussi pour ça, l'arrivée des citations également. Tu citais tout à l'heure, Rebecca, cette phrase où elle dit je n'ai plus de désir pour Pauline. Alors, en le lisant, moi, je me suis dit, ah là là, c'est vraiment très sincère de dire ça. Et puis, je me suis dit, imagine un mec qui aurait écrit ça. Comment l'aurais-tu pris ? Et imagine la scène, parce qu'elle raconte aussi comment, elle n'en pouvant plus de la mort, elle drague une autre fille, elle a une histoire, et en vrai, comme lecteur, on est en empathie aussi avec ce qu'elle vit. Je dis, mais imagine un type, un homme du même âge, qui raconte que, n'en pouvant plus de l'agonie de sa compagne, va coucher avec une fille à Berlin et prendre des drogues. Comment j'aurais reçu ? Je ne sais pas. Néanmoins, ce n'est pas inintéressant de se poser ces questions-là en lisant le texte.
Absolument.
Mais sa sincérité, je la trouve vraiment réussie et forte, et y compris quand elle s'interroge sur pourquoi elle cite énormément d'écrivains hommes et qu'elle dit ben oui, ce sont aussi ces gens-là qui m'accompagnent et je ne suis pas obligée de faire semblant d'autre chose. Et ça aussi, ça m'a plu.
Patricia ?
Mais c'est très vrai qu'elle est sincère. Moi, j'entends absolument qu'on puisse aimer ce texte. C'est celui d'une guerrière et qui ne s'épargne pas elle-même. Et je trouve ça plutôt courageux. Mais pour supporter la violence de ce récit, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même qu'il vous attrape quelque part. Moi, j'ai pris ça comme de la sauvagerie à l'état brut. Enfin, pardon, mais que c'était pas forcément bien écrit. Il n'y a pas de style, parce qu'il faut quand même... Le style, ça peut être un filtre, précisément, pour la douleur. Moi, les listes sans fin, au secours, où tu as pendant 4 pages et demie...
15 pages.
Toute la liste...
15 pages, j'ai compté.
15 pages en tout, mais rien que pour le nombre de personnes qu'il faut contacter pour qu'elles viennent aux obsèques, il y a 4 pages et demie. Toi, tu trouves ça génial ?
Est-ce que c'est la liste... on doit faire la liste des personnes qui seront à l'enterrement.
Oui, mais bon, t'en fais pas un bouquin.
C'est très Édouard Levet. Parce que... Non, mais si, là... Tu ne connais pas Édouard Levet, tu ne sais pas qu'il faisait des livres de listes.
Mais tu sais bien que sans toi, je ne sais rien et que tu es ma conscience.
Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, là, ça a un sens. Non, mais on peut se moquer à la ligne des trucs.
Non, mais je ne me moque pas. Je dis que moi, ça m'a pas. J'ai pas su par où attraper ce texte. Tout ce qu'elle dit de la méditation, je veux dire, au bout de 2 minutes, comme dit la pub, ça va. Les stages Vipassana, là, mais au secours. Et ça m'a empêché. Et pourtant, ce qu'elle raconte m'intéresse. Moi, je veux bien être bousculée. Mais pas comme ça.
Alice ?
Moi, je suis tout à fait d'accord, surtout avec Raphaël. Sur la première partie, moi, j'ai été très touchée par celle-ci. C'est une histoire qui m'a déchiré le cœur. Moi, j'ai dû faire des pauses, j'ai pleuré.
Tu as beaucoup de cœur, Alice.
Attendez la suite. Mais il y a une vraie sincérité. On a employé ce terme qui est une sincérité désarmante, désobligeante aussi, justement, quand elle dit qu'elle n'a plus de désir pour cette fille qu'elle trouvait magnifique et qui, à cause de sa chimiothérapie, devient laide. Mais c'est tragique. Mais c'est vrai qu'on a de l'humanité aussi. On se dit, bah, mets-toi un peu à sa place. Et en même temps, t'as envie d'être du côté de la malade. Donc, c'est un récit qui est cru, mais cru. Mais c'est là où je reviens au style, justement. Quand le langage va échouer à dire la tristesse, la souffrance, la perte, elle va utiliser l'énumération. Donc elle va faire des listes de mots, et je ne vais pas vous en lire une de bout en bout, mais c'est effectivement, il y a 15 pages où ça va être santé, réfléchir, dormir, manger, cuisiner, faire l'amour, méditer, lire, écrire, et je coupe, hein, parce que ça devient long. Non, ça c'est vraiment insupportable.
Plus le méli-mélo des citations.
Voilà, non, mais alors là, moi je ne suis pas d'accord. Justement, sur les citations, là où je trouve que ça marche très bien, c'est que, autant dans l'énumération, elle jette ses mots, elle veut s'en débarrasser, mais avec la citation, elle essaye de se raccrocher à d'autres mots, à des mots des autres, et ça, je trouve que c'est très bien vu. Comment elle croit toujours finalement en la langue, en la création. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie, bon, moi non plus, j'ai pas d'âme, la spiritualité, je m'en fous. Et en l'occurrence, quand elle essaye à un moment donné, elle veut créer un disque parce qu'elle se heurte à son français, cette connaissance, cette langue qu'elle connaît trop bien, ne lui permet pas d'exprimer de l'émotion, elle va passer par une langue qu'elle connaît pas, l'allemand, pour créer de la musique. Et ça, là, je trouve que c'est très bien vu. J'ai trouvé ça particulièrement bien trouvé. Et en l'occurrence, moi, je me suis dit, bah, quand on a fini de la lire, on va l'écouter.
Toutes les vies de Rebecca Warrior, apparue chez Stock. On a commencé avec une mère, M.E.R.E. donc, et on termine avec une autre, celle d'Amélie Nothomb. 4 ans après un roman hommage à son père, voici Tant mieux, titre d'un nouveau texte présenté comme le livre de sa mère. Elle la raconte petite fille, au cœur d'un conte noir, avec une grand-mère sorcière qui oblige à manger des harengs au vinaigre, entre autres. Quant à sa mère, elle ne fait pas beaucoup mieux. Cette gamine, qui est mère d'Amélie Nothomb, donc se prénomme Adrienne, et elle appartient à une famille de grands bourgeois où la violence semble se transmettre de génération en génération. Elle y mettra fin, notamment grâce à son imagination, et 2 mots qu'elle se répète comme une formule magique, tant mieux, une formule de bonne humeur, fermez les guillemets, qui lui permet de résister. On suit la vie de cette femme depuis son enfance dans la Belgique des années 40 jusqu'à son mariage, puis sa mort. Et il faut attendre le dernier chapitre pour passer du conte à l'autobiographie. Raphaël.
Je suis un petit peu embêtée pour parler de ce livre que j'ai lu avec intérêt, plaisir. Enfin, le côté conte de la première partie, enfin des 180 premières pages. Donc là, l'histoire de cette petite fille qui va voir cette mère grand aux allures de sorcière et puis qui vit avec une sorcière qui est sa propre mère. Voilà, je trouvais la forme du conte extrêmement efficace. Et le conte de sorcière se termine comme un conte de fées avec le mariage de cette Adrienne avec celui qui sera le père d'Amélie Nothomb. Ça s'arrête et puis Amélie Nothomb nous dit tout ça est strictement vrai, c'est vraiment la vie de ma mère, etc.
Mais ça, c'est la toute fin.
Et ça, c'est la toute fin. Mais le fait qu'elle nous répète que c'est vrai, tout en expliquant à quel point sa mère était un personnage trouble, pas fiable, on ne savait jamais sur quel pied danser avec elle, on se dit, mais pourquoi as-tu besoin de nous dire que tout ça est vrai ? En fait, tu dis que c'est vrai, mais c'est certainement ce que ta mère t'a raconté. C'est très difficile d'avaler ce conte comme autre chose qu'un conte. Moi, j'arrive pas du tout à dépasser cette partie-là. Donc, c'est sans doute une limite de ma part. Je ne peux pas croire qu'on a été obligé de remanger son vomi 5 fois. Alors, j'ai demandé à des médecins spécialistes du tube digestif, puisque voilà, je fais du fact-checking, qui n'ont pas été capables de me répondre si c'était possible de finir par ingérer son propre vomi.
Tu vérifies ce genre d'informations ?
Ah, bah, bien sûr. Bah, on me dit tout ça est vrai. J'essaye de vérifier, mais visiblement, la science ne s'est pas penchée sur elle.
Ça va loin, le fact-checking au monde,
ouais,
quand même. Hein.
Je trouve aussi, ouais. Mais donc,
mais elle a une drôlerie, elle a une tendresse. Enfin, c'est quand même très, très bien, un livre d'Amélie Nothomb, très, très plaisant. Alors, juste, il y a une chose, en fait, la vraie chose qui m'a posé problème, c'est le verbe impacter. On est dans le conte, à un moment donné, et elle écrit, elle n'imaginait pas à quel point elle serait impactée, et ça, je ne comprends pas comment c'est même envisageable.
Enfin, s'il n'y avait que ça comme problème.
Arnaud, as-tu été impacté, pardon, tu étais touché.
Oui, je l'ai dit déjà en début d'émission, c'est-à-dire que dans ce cimetière de la rentrée littéraire, il y a cette tombe. Déjà, l'épitaphe est quand même la plus drôle, la plus subtile, puisque c'est « tant mieux ». Maman est morte, tant mieux. Alors, tout de suite, il est dit que cette formule n'a aucun sens, c'est une formule magique. Et alors, effectivement, ça commence par un conte de fées et de sorcières, puisque, en fait, dans les contes de fées, il y a toujours aussi des sorcières. Hein. On sait que les contes de fées sont les romans érotiques des enfants. Donc, on lit ce roman, qui est quand même très fort. C'est-à-dire, on voit maintenant, on sait qui est Amélie Nothomb et ce qu'elle représente dans la littérature francophone. C'est-à-dire qu'elle est la représentante d'un courant culturel qui n'a jamais cessé d'exister depuis qu'il est né dans les années 80, qui va de Tim Burton à Chloé Delhomme en passant par Marilyn Manson, qui est le courant gothique. C'est une écrivaine gothique, et c'est ça qui est formidable, parce que là, elle vous fait un conte gothique, c'est du Tim Burton, quoi. Donc, pour unique objet transitionnel, parce qu'on lui a privé de son doudou, elle a une spatule en bois, et qu'elle appelle Maïzina. Donc là, vous voyez, Mylène Farmer n'aurait même pas pensé à ça, quoi.
Sachant que le chat...
Il y a une Farmer, là. Maïzina, hein, je pense. Et donc, c'est ça qui est très, très beau.
Le chat s'appelle Pneu, quant à lui.
Et le chat... Non, ça,
parce que c'est un mot qui est
pieux,
tout le temps chez Amélie
Nothomb. Le chat qui s'appelle
Le chat qui vit, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent.
Oui. Alors, on voit bien, parce que c'est quand même, évidemment, comme tous les contes, c'est parabolique. Donc, la petite fille qui a grandi avec sa spatule en bois, qu'elle va perdre en plus, va tuer tous les chats. Pourquoi ? Parce que sa mère lui expliquait que le chat, c'est la féminité. Bon, vous voyez bien, hein, c'est pas la peine de faire des schémas. Hein. J'adore le moment où Amélie Nothomb reprend la plume. C'est comme si elle
Toi, tu adores ce que Raphaël a détesté.
rester.
Ah oui, mais c'est quand elle devient lectrice d'elle-même et qu'elle nous donne, elle essaye de nous donner les clés. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille ? Une chose qui arrive, c'est qu'une femme a eu 3 filles. Et cette chose s'est reproduite, c'est-à-dire que la mère d'Amélie Nothon a eu, elle aussi, 3 filles. Et avec tous les problèmes que ça pose, la préférée, la belle, la laide, tout ça est là, et je trouve ça, moi, vertigineux. Elle avait fait un très beau livre sur son père, dont elle reparle ici, qui était un livre totalement différent, un livre mystique, jungien, où elle parlait à son père, comme si elle s'était convertie, elle aussi, et elle explique bien la différence d'amour qu'elle avait avec son père et avec sa mère.
Alice.
Moi, j'ai envie de me défenestrer en entendant ça. C'est pas possible, c'est tragique.
Il ne faut pas exagérer.
Non, mais il ne faut pas changer d'avis. Hein. Tu as tort, c'est pas de problème.
Donc, non, mais c'est de se défenestrer, là. C'est exagéré.
Non, mais ce livre qui, pourtant, se lit en 45 minutes top chrono, hein, déjà trop long. Mais je tiens quand même à dire que j'ai un petit peu peur quand même de donner mon avis parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec Psychopompe et depuis, je ne reçois plus les livres d'Albin Michel. Je pense que ça ne va pas s'arranger.
Mais... Albin Michel étant l'éditeur d'Amélie Nothomb.
Voilà. Je dois quand même dire une chose, c'est que j'étais une admiratrice très très forte d'Amélie Nothomb pendant de longues années. Elle a fait des livres grandioses. Quand on a lu Amélie Nothomb, on ne peut pas trouver bon celui-ci. Déjà, d'abord, il y a un problème de forme. 200 pages en police 18. Je sais qu'on ne juge pas un livre à sa forme, mais c'est insupportable. En plus, elle triche à la fin, on l'a dit. Mais je vais y revenir. On lit des marges, on lit du blanc. Franchement, à pas rivaliser avec Mondrian et ses monochromes, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle le dit à qui elle veut l'entendre, qu'elle veut se tendre vers le haïku. Pourquoi elle n'y va pas ? Mais en tous les cas, ça permet de comprendre une chose, c'est pourquoi ces romans, depuis ces dernières années, manquent de souffle. C'est parce que ça prend du temps d'installer une atmosphère. Alors c'est vrai, au début, on a un peu le conte. Voilà, il y a la méchante grand-mère, et puis voilà, que je t'oblige à remanger ton vomi avec ton hareng et ton café. Bon, très bien. On a tous les ingrédients de Nothomb, le bizarre, la méchante, la petite fille. Mais si on aime le gothique, autant aller lire Henry James ou Edgar Allan Poe, ça sera d'autant plus brillant. Et elle intègre même ses mots préférés, le mot pneu. Donc on dirait du Nothomb qui pastiche Nothomb. Mais elle l'a mieux fait. Donc par exemple, le conte d'Henri à la houppe, la voix de l'enfant dans Métaphysique des tubes. Bon, désolé, hein, je parlais avec mon cœur. Hein, pas
là,
avec
c'est Arnaud qui va se suicider.
Voilà, désolé. Mais moi, le problème,
c'est beau
que
de voir une fan déçue.
J'arrive, voilà. J'ai pas fini.
Déçue, là, en fait.
Oui, même trahie. Parce qu'au fond, ce livre, il est niais. Adrienne, donc la mère d'Amélie Nothomb dedans, elle appelle sa peluche, qui n'en est pas une, mais une cuillère en bois, Maïzena. Pour moi, Nothomb, là, à ce moment-là, elle confond deux choses, le concept d'enfant et d'enfantin. Et peut-être qu'elle ressent d'ailleurs à un moment donné que c'est trop niais, donc elle abandonne cette histoire et elle va se concentrer, elle va abandonner la grand-mère qu'on a moins vue que Maïzena.
Elle n'abandonne pas du tout l'histoire de Maïzena.
Oui, bah Maïzena, mais on s'en fout de Maïzena.
Mais non, c'est vachement bien.
Mais attendez, moi, j'ai pas fini, je continue. Bref, c'est mal.
Non, il va falloir s'arrêter.
Bref, en tous les cas, je dis juste une dernière chose, c'est que le livre est bâclé, et que quand on arrive à la dernière partie, on passe d'une note directement un petit peu qui, on ne sait pas, c'est une note d'intention qui se dirige vers les journalistes ou vers les lecteurs pour s'assurer ce qu'ils ont compris. Bah moi je dirais juste, si on aime Nothomb, on aimera ce livre, mais si on connaît vraiment l'œuvre de Nothomb, on ne peut pas l'aimer.
Patricia.
Alors, je suis absolument pas d'accord avec toi, parce que les premières pages, par exemple, moi je les trouve formidables, sur l'appartement de la grand-mère, la solitude de cet enfant.
5 pages.
Même d'être enfermé dans une chambre, dans le noir, etc., rien que l'apparence de cette grand-mère barbe bleue qui est absolument effrayante, je trouve ça très bien fait. Et ce qui est extraordinaire, parce que d'abord, elle se renouvelle à chaque fois, Amélie Nothomb, et en même temps, c'est toujours la même. Et elle fait des gens qui sont autour d'elle, que ce soit des gens qu'elle connaît, c'est-à-dire sa famille proche, ou des Japonais qu'elle ne reverra plus jamais de sa vie, elle en fait des caractères. Et moi, je trouve ça extraordinaire, avec ce 6e sens qu'elle a ici, qui lui permet de deviner sa mère, laquelle ne s'est autorisée à crier qu'à la fin de sa vie, quand elle avait complètement lâché les amarres. Et donc, ça a résonné, je pense, chez Amélie, en se disant, mais pourquoi ces cris devaient être déchirants ? Pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça ? Cette femme insaisissable, déconcertante. Et il y a beaucoup de gratitude dans ce livre.
Tant mieux, donc, d'Amélie Nothomb est publiée, comme d'habitude, chez Albin Michel. C'est le moment où le programme du masque s'élargit en laissant parler votre cœur. Raphaël, quel est ta reco du jour ?
Ma reco est un titre qui ressemble à un exercice d'orthophoniste, Au pays des Pnines, de Sybille Grimbert. Au pays des Pnines, édition Premier Parallèle. C'est le livre qui inaugure une nouvelle collection qui est consacrée à la vie rêvée des personnages, des héros de fiction. Et Sybille Grimbert, qui est une autrice dont j'aime infiniment la fantaisie, qui est très délicate, l'ironique et subtile. Et elle nous parle de Pnine, qui est un merveilleux personnage de Nabokov, héros du roman éponyme. Je ne sais jamais comment utiliser éponyme. Néanmoins, donc ce roman a été publié en 1957. Et Pnine, c'est un personnage qui serait une sorte de saint patron des Pierre Richard. C'est un homme complètement inadapté au monde. Et c'est ce qui en fait un personnage merveilleux, admirable, d'une grandeur morale infinie. Et donc, peu importe que vous ayez lu ou pas le roman de Nabokov, parce qu'Au pays des Pnines, c'est un guide de voyage dans un pays qui serait uniquement composé de personnes qui sont faites sur le même modèle, inadaptées, gauches, extrêmement gracieux, délicats malgré tout, qui sont obsessionnels. Et c'est une balade comme ça à travers ce pays imaginaire par Sybille Grimbert. Je vous disais que c'est peu importe que vous l'ayez lu ou pas, mais je doute qu'après l'avoir lu, vous n'ayez pas une envie folle d'aller lire le roman Pnine de Vladimir Nabokov.
Et c'est édité donc chez Premier Parallèle. Mmh. Arnaud.
Alors encore un tombeau, hein, mais celui d'une grand-mère maternelle, ça change un peu, hein. Par le journaliste indépendant David Dufresne, qu'on ne présente plus, qui est l'auteur de ce film documentaire qui a documenté les violences policières des Gilets jaunes, hein, qui s'appelle « Un pays qui se tient sage ». Donc là, il nous fait découvrir sa grand-mère maternelle, qui s'appelle Françoise Daubonne. Alors j'avoue que je ne la connaissais pas, mais j'aurais dû. Elle a été maoïste, elle a peut-être rencontré Serge Chalandon, ça se trouve. Elle a fondé, elle a participé au MLF, elle a fondé le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire en 70, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein, c'est vraiment la période dont parle par ailleurs Serge Chalandon. Et c'était donc une activiste révolutionnaire qui a beaucoup écrit. Et donc, c'était la. Et donc, son petit-fils enquête sur elle et il découvre un scoop, et assez énorme, hein, il faut bien le dire. C'est qu'en 1975, il y a eu un attentat à la centrale nucléaire de Fessenheim, hein, en Alsace, dont on parle beaucoup souvent aux actualités, je crois qu'elle est fermée là maintenant. Et donc en 75, il y a deux bombes qui ont explosé sur le toit, qui n'ont pas fait de victimes, parce que les éco-terroristes avaient prévenu qu'il y avait à avoir ces explosions. Donc c'est très documenté, et en même temps, c'est Mémé Carabine. Après, elle devient copine.
Parce qu'elle est impliquée dans cet attentat, c'est ça ?
Oui, elle est une, on découvre, hein, on n'a jamais su qui avait fait ça. David Dufresne nous apprend que sa grand-mère est une des co-autrices, ils étaient deux en l'occurrence, de cet attentat de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Et ça s'intitule « Remember Fessenheim ».
Fessenheim, voilà.
De David Dufresne, et c'est publié chez Grasset. Alors pour ce qui me concerne, j'ai choisi une bande dessinée, parce que oui, la bande dessinée ne fait pas forcément partie du programme, mais elle tient sa place dans les coups de cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous recommander la lecture d'un des plus grands auteurs européens. Il s'appelle Carlos Jiménez, il est espagnol, et le dernier volume de sa série autobiographique, sa plus grande série autobiographique, selon moi, vient de paraître. Ça s'intitule Paracuellos. Et Paracuellos, c'est le nom d'une ville à côté de Madrid, où est situé le pire foyer d'orphelins où Jiménez fut placé à la fin des années 40, parce que cet homme a, pendant 8 ans, entre ses 6 ans et ses 14 ans, il a vécu dans plusieurs foyers de l'Espagne franquiste. C'était des foyers pour garçons, fondés par les phalangistes, où les gosses avaient froid, faim, soif, quand on ne leur tapait pas dessus. Donc c'est un témoignage d'un pan d'histoire espagnole à hauteur d'enfant, avec des amitiés, des copains pour toujours, la bande dessinée qui sauve. Et c'est l'œuvre d'une vie, parce que Jiménez a commencé cette série à la fin des années 70. Il y est revenu là au début des années 2020, et cette série est devenue célèbre en France d'abord, et dans le monde entier ensuite, grâce à Marcel Gottlieb. Donc le troisième et dernier volume de Paracuellos a paru chez Fluide Glacial il y a quelques semaines. Patricia.
De Bruno Cabanne, Les fantômes de l'île de Peleliu, c'est un récit aux éditions du Seuil. Peleliu, ça fait partie de l'archipel, d'un des archipels de l'océan Pacifique Nord. On est en septembre 1944, en pleine guerre du Pacifique. Il y a une bataille abominable entre les Américains et les Japonais. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Clint Eastwood, Yojima, je crois, hein, c'est ça, qui se souviennent de scènes absolument stupéfiantes. Et là, Yojima, ça a été la bataille la plus meurtrière de la guerre. Et Peleliu vient juste après. Et c'est vraiment la guerre raconté à hauteur d'homme, ça sent la terreur, le sang, on entend les bombes, on devine les hommes qui sont planqués dans leur grotte et quand ils en sortent, ils traversent la mangrove. C'est une enquête de terrain extraordinairement bien écrite, de façon très personnelle. Moi, j'ai beaucoup pensé à la façon dont Jean-Paul Kaufmann aborde ces épisodes de l'histoire quand il va à Elo, au Kerguelen ou à Longwood. Et c'est aussi très fouillé sur le plan historique. Il y a des allers-retours qui permettent aussi d'analyser le colonialisme, c'est absolument remarquable.
Les fantômes de Peleliu, de Bruno Cabanne, au Seuil. Alice, pour finir.
Moi, j'ai envie de vous parler de Voltige, de Valérie Tongkong, qui vient de sortir en poche. Je ne sais pas si vous connaissez Valérie Tongkong, mais c'est une auteure qui s'interroge beaucoup sur la liberté, la vérité et le mensonge, et en l'occurrence, dans son livre, ce sont les personnages principaux. Bon, il y a quand même des véritables personnages, comme Eddie, qui a 47 ans, il a un beau métier, il a une belle maison, une femme qui est créatrice de bijoux, une fille de 13 ans, qui est douée par la gymnastique. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais bientôt, la société d'Eddie va faire faillite, et au lieu simplement de dire la vérité à sa femme et à sa fille, eh bien, il va mentir, et il se trouve qu'il va, il va y avoir une série de petits silences, de petits mensonges qui vont virer au drame. En plus de ça, Valérie Tongkong, elle va entremêler des catastrophes climatiques qui vont s'intégrer dans le récit. Donc là, on a évidemment une parabole, on a utilisé ce mot-là tout à l'heure. J'ai eu l'impression de lire du Lars von Trier, Mélancolia, qui arrive littéralement comme ça dans le livre. C'est à la fois haletant, c'est palpitant. Chacun des personnages cherche un responsable, mais dans le livre, il n'y a au fond ni coupable, ni victime. C'est perturbant, c'est magnifique et c'est brillant.
Donc Voltige de Valérie Tongkong, paru au livre de poche. Alice Develay, Arnaud Vivian, Patricia Martin, Raphaël Léris, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume. Les prochains enregistrements, l'émission devrait avoir lieu le jeudi 2 octobre pour débattre de l'actualité des films et du cinéma. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume, et c'était avec Philippe Thibault, Tahar Bouklifa et Éric Villenfin. Aujourd'hui, merci à Ilinka Negulesco qui coprogramme l'émission et l'a préparée avec l'aide de Zora Desgouttes. Ma bande et moi vous retrouvons pour d'autres enthousiasmes ou désaccords, une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.